Vous écoutez RFI, il est 14h10 ici à Paris, l'heure de retrouver Juliette Jacquemin pour le rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Bonjour Juliette.
Bonjour Marine, bonjour à tous. À venir dans les 20 prochaines minutes, cette controverse en Bolivie. Un texte promulgué par le président prévoit de doubler la surface des terres destinées à la production de coca. Certains redoutent que cela n'augmente encore le narcotrafic. On en parle dans notre revue de presse. L'ignominie des conditions d'incarcération en Haïti, le mot est fort. Il vient de l'expert indépendant des Nations Unies en matière de droits de l'homme en Haïti en visite sur l'île Gustavo Gallion. Dénonce la situation désastreuse des prisons haïtiennes. Vous l'entendrez. Et puis nous ferons un tour à bord du navire solaire, un bateau bientôt mis en circulation sur un fleuve amazonien en Équateur et fonctionnant uniquement grâce à l'énergie solaire. L'objectif, c'est de permettre aux tribus indiennes de se déplacer sans utiliser d'essence, une énergie dont elles manquent très souvent. Stéphanie Schuller est avec nous pour la revue de presse. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
À la une aujourd'hui, ce véritable tollé suscité par les dernières déclarations du nouveau chef de l'agence environnementale américaine.
Oui, tout à fait. Dans une interview à la chaîne CNBC, Scott Pruitt a dit, je cite, « ne pas croire à l'impact du CO2 sur le réchauffement climatique car mesurer avec précision l'impact de l'activité humaine sur le climat est quelque chose de très difficile. » C'est ce que rapporte le Washington Post. La science se base sur des preuves empirique et non pas sur des croyances, a répliqué sèchement Gina McCarthy, la prédécesseur de Scott Pruitt. Et cette nouvelle sortie du chef de l'agence environnementale a scandalisé la communauté scientifique américaine, constate aussi le Boston Globe qui fustige les décisions irresponsables que s'apprête à prendre l'administration Trump n'ont rien à voir avec les connaissances dont nous disposons aujourd'hui sur les causes du changement climatique. La vérité est que cette administration s'en moque.
Et pendant ce temps, le nombre de migrants clandestins qui quittent les États-Unis pour demander l'asile au Canada augmente toujours.
Et le premier ministre de la province du Manitoba, dans l'ouest du Canada, a tiré hier la sonnette d'alarme. Brian Pallister déplore le manque de ressources, rapporte le journal La Presse. Selon le chef du gouvernement provincial, les arrivées de migrants traversant illégalement la frontière canado-américaine ont plus que doublé au cours des dernières semaines, de même que les coûts de leur prise en charge. Réponse du gouvernement fédéral canadien par la voix du ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale, qui a promis de couvrir les coûts additionnels. Le sujet sera également à l'ordre du jour ce vendredi lors de la rencontre avec son homologue américain John Kelly, souligne le journal de Montréal.
On prend désormais la direction de la Bolivie avec ce texte qui fait polémique. La nouvelle loi générale de la coca, promulguée mercredi par le président Evo Morales, elle prévoit de presque doubler la surface des terres dédiées à la culture de la coca, cette feuille traditionnelle. 12 000 hectares y étaient dévolus, ce sont maintenant 22 000 hectares. De nombreux Boliviens se demandent à quoi seront destinées ces nouvelles terres. Écoutez le reportage à la passe de notre correspondante Alice Campagnol.
Si la coca est un produit consommé partout en Bolivie, la nouvelle loi sur la feuille sacrée est loin de faire l'unanimité. Colère chez les cocaleros, les producteurs de coca de la région des Yungas notamment. Traditionnellement, c'est la feuille de cette région qui est mâchée car son goût est meilleur. Mais une grande partie des hectares légaux ajoutés par le nouveau texte le sont dans la zone du Chaparré. Alors l'opposition et les producteurs des autres zones dénoncent une culture qui ne serait pas destinée aux usages traditionnels, mastication ou infusion, mais au trafic de drogue. Pour Evo Morales, il n'est absolument pas question de drogue.
Peut-être que dans la culture occidentale, il y a ce problème illégal de la consommation de cocaïne. Ils détournent une partie de notre feuille de coca, mais nous ne sommes pas responsables de la culture de la cocaïne.
Le président veut destiner ses hectares de coca à l'industrie alimentaire et espère un jour exporter ses produits à l'étranger. Oui, mais voilà, aujourd'hui, il est interdit de sortir du pays, ne serait-ce qu'avec un seul sachet d'infusion de coca. Alice Campagnol, La Passe, RFI.
Stéphanie Schuller, on a entendu l'inquiétude des producteurs boliviens, inquiétude partagée par la communauté internationale.
Oui, absolument. Le chef de la délégation de l'Union européenne en Bolivie s'est dit préoccupé, écrit El Diario. Hier, lors d'une conférence de presse à La Paz, León de la Torre Crais a annoncé que l'UE allait réaliser de nouvelles études. Il s'agit, vous savez, d'évaluer la production exacte de la feuille de coca en Bolivie, de déterminer la quantité nécessaire nécessaires pour l'usage traditionnel et enfin d'améliorer les instruments juridiques contre le narcotrafic. L'UE veut ainsi s'assurer que l'excédent de la production bolivienne n'arrive pas sous forme de cocaïne dans les pays européens, conclut Le Quotidien.
Nous parlions hier des violents affrontements entre groupes criminels dans le département du Chocó en Colombie, des heurts qui suscitent beaucoup de commentaires dans la presse.
À l'instar d'El Tiempo, Juliette qui écrit « Ce sont des scènes qu'on pensait appartenir au passé. Un groupe armé et la guérilla ELN se livrent de féroces batailles dans une zone stratégique pour le trafic de drogue et d'armes, forçant plus de 300 habitants à fuir. Mais au-delà du drame humain, c'est la tragédie de l'incapacité de nos institutions à être présentes dans ces zones. L'État droit résout immédiatement cette crise qui risque sinon de se répéter à l'infini, notamment en raison de la démobilisation des FARC. Certains de leurs anciens territoires d'influence connaissent déjà le même sort que le Chocó. Et l'éditorialiste de conclure, il n'y a qu'ainsi que la société colombienne pourra se tourner vers l'ère post-conflit sans aucun regret.
On referme cette revue de presse en Haïti. C'est lundi prochain que le Premier ministre désigné, Jacques-Guy Lafontaine, doit défendre sa politique devant le Sénat pour obtenir un vote de confiance.
Et le Nouvelliste pointe aujourd'hui du doigt le comportement irresponsable de la plupart des sénateurs qui réclament certains privilèges pour accorder leur vote au Premier ministre, comme le partage des responsabilités au sein du cabinet ministériel et dans les organismes autonomes de l'État. Pourtant, leur siège n'appartient pas à l'élu, mais au parti politique, selon la loi haïtienne. Dans ces conditions, il est assez difficile de savoir si Jacques-Guy Lafontaine passera l'étape du grand corps, estime le Nouvelliste.
Et puis le National, cette fois, revient aujourd'hui sur le drame de ces Haïtiens expulsés de République dominicaine.
Rien que depuis le début de l'année, 5040 migrants haïtiens ont été arrêtés et expulsés. 5035 autres se sont vus obligés de quitter le territoire dominicain par leurs propres moyens, face à la pression des autorités comme de la population dominicaine, rapporte le journal. Au total donc 10 075 rapatriés, dont 286 mineurs non accompagnés depuis le début de l'année, Juliette.
Merci Stéphanie Schuller. On reste en Haïti pour se pencher sur un autre drame, celui des personnes emprisonnées sur l'île. Entre surpopulation, malnutrition et procès qui n'arrivent jamais, les conditions carcérales en Haïti sont dans un état lamentable. Cette fois, c'est l'expert indépendant des Nations Unies pour les droits humains en Haïti, Gustavo Gallion, qui pointe du doigt les ratés dramatiques de la politique pénitentiaire en Haïti. Il est à Port-au-Prince jusque demain samedi, un dossier signé Amélie Baron.
Détention préventive prolongée. Cela fait des années que les organisations de défense des droits humains dénoncent ce fléau qui est la matérialisation on ne peut plus concrète de la lenteur de la justice en Haïti. Derrière ces mots de détention préventive prolongée, il y a la réalité des milliers de personnes qui attendent pendant des années leur procès.
En moyenne, plus de 70% des personnes privées de liberté en Haïti continuent à être en détention provisoire prolongée. Au pénitencier national de Port-au-Prince, la situation s'est aggravée dramatiquement. La durée moyenne de détention provisoire est passée de 624 jours à 1100 jours ou 3 ans, selon une étude faite par la MINUSTA en décembre 2016. On peut affirmer que 91% de toutes les personnes détenues au pénitencier national en attente de leur procès sont privées de liberté illégalement ou arbitrairement. Une augmentation de 23% depuis 2014.
Et la conséquence directe de cette lenteur de la justice, c'est l'extrême surpopulation dans les prisons.
Si la situation des personnes en détention provisoire prolongée était résolue, il n'y aurait pas de surpopulation dans les prisons haïtiennes. En tenant compte de la surface acceptable pour l'ONU, à savoir 4,5 m² par détenu, le taux de surpopulation atteint 644%. En d'autres termes, la capacité des prisons d'Haïti ne permet l'hébergement que 1600 détenus au lieu de 10 500. Ce sont des conditions inhumaines et dégradantes. Tous les juges et les fonctionnaires de justice, ainsi que toute la population, devraient visiter les prisons pour constater de près l'ignominie à laquelle sont soumises les personnes privées de liberté dans ce pays.
Au pénitencier national construit dans la capitale il y a un siècle, les détenus n'ont pas un tiers de mètre carré chacun. Mais même quand la prison est neuve, la problématique d'espace perdure. Gustavo Gallion s'est rendu à la prison de Hinche, inaugurée il n'y a pas 2 mois, et son constat est affligeant.
Le nouveau bâtiment, qui a une capacité d'environ 400 personnes, héberge depuis le 26 février 292 prisonniers. Chaque cellule a 8 lits construits en béton, ce qui serait suffisant pour assurer un lit à chaque détenu. Mais j'ai trouvé des cellules avec 14 personnes où les prisonniers sont forcés de partager leur lit, tandis qu'à côté, il y a des cellules vides. Parmi les 40 cellules, il y en avait 10 qui étaient vides. Ceci démontre qu'il existe chez certains fonctionnaires une mentalité de réduction de l'espace pour les personnes détenues qui va au-delà de la capacité physique de l'infrastructure existante, mentalité qui n'a aucun sens et qui serait appropriée de corriger aussitôt que possible.
Et ces conditions de détention inhumaines ont des conséquences dramatiques. Selon les projections de l'ONU, en 2017, 229 personnes vont mourir en prison en Haïti, certaines sans même un jour avoir été entendues par un juge. Amélie Baron, Port-au-Prince, RFI.
En bref, le bilan grimpe au Guatemala après l'incendie qui a ravagé un foyer pour adolescents dans la nuit de mercredi à jeudi. 35 jeunes filles ont été tuées d'après les derniers chiffres. Il reste encore 19 adolescentes hospitalisées, souvent dans un état critique. Le feu aurait été provoqué par certains pensionnaires qui protestaient alors contre les mauvais traitements qu'on leur infligeait dans le foyer. Un bateau pour faciliter le transport des Indiens Achuar en Amazonie et de leurs marchandises. Un bateau qui ne fonctionne qu'à l'énergie solaire. Il a été inauguré le 4 mars dernier en Équateur et il devrait entrer en fonctionnement dans un mois sur plus de 60 km sur le fleuve Pastaza, en plein territoire Achuar. C'est une grande première. Notre correspondant en Équateur, Eric Sanson, nous présente Langui, le nom du prototype de ce bateau solaire inédit.
À petite vitesse, les deux moteurs électriques ne s'entendent presque pas sur le fleuve Agualico. Abrité sous les panneaux solaires qui assurent au navire de 2 à 3 jours d'autonomie, de nombreux leaders indigènes comme l'Achuar Milton Caldera découvrent ravis l'aboutissement d'un projet lancé il y a 5 ans et baptisé Cara Solar.
Cara est un mot Achuar qui veut dire rêve prémonitoire. On ne peut pas agir envers l'environnement comme l'ont fait les pays occidentaux. Ce bateau solaire est le symbole du rêve d'un développement alternatif et il doit devenir réalité.
Venus de toute la région amazonienne, mais également d'Amérique centrale, les premiers passagers, comme Candido Messua du Panama, ont confirmé le besoin d'un transport indépendant des énergies fossiles.
Dans les communautés isolées, la seule façon de voyager, c'est le bateau. Mais souvent, il n'y a pas d'essence ou alors les familles n'ont pas les moyens de payer la quantité nécessaire d'essence pour un voyage aller-retour.
Construire une grosse pirogue solaire est plus complexe qu'il n'en a l'air. Plusieurs ONG ont dû mobiliser de nombreux ingénieurs pour calculer le nombre de panneaux solaires nécessaires, leur installation sur le toit du navire, la place des batteries et l'équilibre du tout. Oliver Routenay gère la construction du navire depuis le début de l'aventure Cara Solar.
Il peut transporter 18 personnes et près de 2 tonnes de marchandises. Les panneaux solaires doivent survivre aux conditions amazoniennes. Les arrêts brutaux, les chutes de branches, les chocs de toute nature, nous les avons choisis car ils sont très résistants.
Célia Salazar est belge, elle travaille à Plan Junto, une entreprise sociale qui supervise la construction du navire solaire, construit dans un chantier d'Indien Cofan.
C'est un bateau tout à fait autonome, ce qui veut dire que tous les panneaux solaires se trouvent sur le toit et ils rechargent l'énergie solaire directement des batteries qui se trouvent dans le bateau. Donc c'est un bateau qui n'a pas besoin d'être rechargé. Ce bateau peut fonctionner une fois. Si la batterie est rechargée, il peut continuer à fonctionner, même s'il pleut, pendant au moins 2 jours. Donc voilà, c'est quand même assez solide.
Même si à terme il est prévu d'installer des bornes de recharge dans les escales, le navire ne devra d'abord compter que sur ses panneaux solaires. D'ici 1 ou 2 mois, il commencera à fonctionner en territoire Achuar, au sud de l'Équateur. Oliver Routenay.
Dans ces 9 communautés, il y a 9 écoles, un collège, une clinique et 3 chamans. Ce seront les principaux arrêts de la ligne de transport du pays.
Le billet doit être moitié moins cher que les coûts actuels, même si les détails ont encore à être décidés par le peuple Achuar. Célia Salassar.
Il sera propriété des 9 communautés auxquelles il sera, dans la région dans laquelle il sera en train de fonctionner. Donc c'est un bateau qui appartiendra à la nationalité Achuar.
Travaillant dans l'ONG Aldea qui parraine le projet, Michel Laforge confirme que le bateau en soi n'est qu'une première étape.
Nous pensons qu'au bout d'un an, le groupe de 9 communautés qui va gérer ce bateau sera autonome et donc le suivi sera beaucoup moins fort, mais on se rapproche.
Construit à un coût de quelques 45 000 euros, le navire prototype n'est que le premier d'une série que les promoteurs de Cara Solar souhaitent la plus large possible. De très nombreuses communautés indigènes sont en effet intéressées.
Nous avons déjà des espèces de demandes semi-formelles d'autres peuples de l'Amazonie pour dire « bon, bah, quand est-ce qu'on commence à construire le bateau chez nous ?»
L'un des objectifs de Kera Solar est de faciliter les déplacements des habitants, rendant inutile la construction de routes dont les conséquences sont très souvent tragiques. Marlon Vargas, président de la Confédération des nationalités indigènes de l'Amazonie équatorienne.
Pour nous, ce navire est très important. Nous disons non à l'extraction pétrolière et à la contamination de l'environnement. Mais il faut offrir d'autres alternatives. Cette initiative appartient au peuple à choix. C'est un message que nous envoyons au monde, celui qu'un autre développement est possible.
Eric Sanson, San Pablo, RFI.
Journal de l'Outre-mer.
Bonjour Odane Agiali.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
Le dialogue est rompu entre les transporteurs routiers et le président de la collectivité territoriale de Martinique.
Oui, le conflit autour notamment de la détaxe du carburant dure depuis des semaines déjà. Et la réunion entre les professionnels et Alfred Marie-Jeanne lundi a tourné court. L'intersyndicale annonce de nouvelles actions de blocage et demande l'arbitrage du préfet Grégory Gabour.
Le préfet, nouvel interlocuteur des transporteurs, les professionnels de la route ont dû se résoudre à ce choix face à l'intransigeance, disent-ils, d'Alfred Marie-Jeanne sur chacune de leurs doléances, des taxes du carburant, répartition des parts de marché et aide pour le départ à la retraite de 6 camionneurs. Aucun rendez-vous n'a encore été fixé avec le représentant de l'État, mais cela devrait se faire assez rapidement, à en croire Olivier Trompette, président du syndicat UNOSTRA.
On a pris contact avec le préfet, il nous a dit qu'il va en parler donc avec le président. Puis à l'issue de ça, il va nous recontacter pour savoir ce qui est possible ou pas.
Est-ce à dire que les transporteurs ne négocieront plus avec Alfred Marie-Jeanne ? En tout cas, pour l'instant, entre les deux, le dialogue semble rompu. Pour Olivier Trompette, la dernière réunion ce lundi a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.
On n'arrive pas à travailler avec lui. Donc, nous avons des propositions. On attendait qu'il nous fasse des propositions et qu'on puisse négocier, discuter. Finalement, ça n'a pas été fait. Et la façon dont il nous reçoit, ça ne nous plaît pas du tout. Pour le moment, pas de négociation avec M. Langeal.
On attend désormais la réponse de la CTM. Si toutefois elle veut répondre, ses dirigeants refusent toute demande d'interview depuis le début de la mobilisation. La suite du mouvement, elle, dépendra de l'éventuel arbitrage du préfet souhaité par les transporteurs.
Grégory Gabour de Martinique Première. En Guyane, 18 associations demandent un moratoire sur la Montagne d'Or. Le vaste projet minier situé au sud de Saint-Laurent-du-Maroni doit entrer en fonctionnement dans 3 ans. Objectif, produire 155 tonnes d'or par an en Guyane. France Liberté dénonce ainsi les impacts humains et environnementaux graves, souvent irréversibles. Les populations amérindiennes n'auraient pas été consultées avant le lancement du chantier au mépris de la loi, poursuit l'association. Et puis une nouvelle étude scientifique sur le Zika indique que 35 espèces de moustiques sur les 3500 connues pourraient être porteuses du virus. Annabella Fayou, spécialiste des maladies vectorielles liées aux moustiques, souligne que le seul moustique connu responsable de Zika en Outre-mer appartient à l'espèce Aedes aegypti. L'occasion de revenir avec elle sur le nombre de familles de moustiques dans les territoires ultramarins. Annabella Fayou est jointe par Tidiane Amaron.
Les 3500, c'est pour le monde entier. Dans les Outre-mer, par exemple, en Guyane, il n'y a que 250. De la Caraïbe, peut-être maximum une vingtaine. Et à Tahiti, une dizaine. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il y a moins de moustiques, il y a moins d'espèces. Ça veut dire qu'il y a une représentation plus faible des espèces, mais les densités peuvent être équivalentes. Il y a des entomologistes qui ont déjà fait le tour de chaque île. Ils ont déjà capturé tous les moustiques qui sont sur cette île. Donc ils savent exactement qu'est-ce qu'il y a comme moustiques, parce qu'on peut les distinguer morphologiquement, ils sont différents, et ensuite on peut utiliser des outils génétiques pour les distinguer aussi. Dans nos Outre-mer, parce qu'on est en France aussi, parce qu'on a les moyens de détecter les virus et de les analyser et détecter les moustiques, qu'on sait pertinemment combien d'espèces on a de moustiques et qui transmet quoi.
Annabella Fayou au téléphone, Outre-mer Première de Tidiane Amaron. Bonne journée.
Bonne journée à vous, Odane Agiali. Le rendez-vous d'Haïti et des Amériques a été réalisé aujourd'hui par Jonathan Brady. Merci à lui. Une émission à retrouver comme chaque jour sur notre site internet www.rfi.fr. Merci de votre fidélité. Il est presque 14h30 ici à Paris, 8h30 à Port-au-Prince. Restez avec nous. L'information revient dans une poignée de secondes. Maintenant, ce sera avec Marine de la Moissonnière. Très belle journée à tous sur la Radio du Monde.
International. Sophie Malibaud.
Comment sauver l'Europe? L'ancien ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine pose la question et nous l'interrogerons sur ce qui menace vraiment aujourd'hui les Européens. L'abandon d'une construction qui a permis depuis 60 ans le retour de la paix, le retrait de la scène diplomatique sont-ils inéluctables?
International avec Sophie Malibaud en partenariat avec TV5 Monde et le journal Le Monde.
Dimanche à partir de 11h10 TU.
RFI.